Bonjour à tous. Alors certains me connaissent depuis très longtemps, mais ils sont de moins en moins nombreux. Je les embrasse. Je suis heureux d'être parmi vous, d'essayer d'apporter un petit peu de tout ce que j'ai reçu pendant de longues années dans notre église à la rue Vespasien. Je suis heureux parce que ça me fait rappeler aussi le psaume 33, qu'il est doux, qu'il est bon d'être ensemble. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon ou comme l'huile qui glisse le long de la barbe d'Aaron. J'ai toujours été frappé par ça. La rosée qui rafraîchit, et puis l'huile qui guérit, qui adoucit, qui cicatrise. Et ça, c'est la richesse de nos rassemblements. Mais nous ne sommes pas simplement rassemblés pour nous retrouver, nous papoter, nous raconter nos petites histoires, ce qui s'est passé, ou même parler de choses plus sérieuses, de choses spirituelles. Mais nous sommes rassemblés ici pour rencontrer le Seigneur. C'est lui l'hôte principal, parce que c'est en son nom que nous sommes réunis. Il arrive parfois que nous l'oublions. Alors ce matin, il y a tellement de choses à dire, mais je vais pas être trop long, puisque j'ai tout noté, c'est bien cadré. J'ai même mesuré le temps. Je me souviens que M. Dubarry, un jour, avait invité un jeune prédicateur. Et le jeune prédicateur lui avait dit « Monsieur Dubarry, combien de temps est-ce que je dois prêcher ?» Et Monsieur Dubarry, avec l'humour que nous le connaissions, cette délicatesse qu'il avait, « Pas trop long, pas trop court. » Je trouve que c'était très bien parce que ça a laissé quand même une certaine latitude. Parce que moi, quand on me dit 25 minutes, 30 minutes ou 20 minutes, ancien professeur qui travaille sur 45 minutes, ça m'oblige à une certaine gymnastique. Une gymnastique, le mot résonne en moi, puisque j'étais professeur d'éducation physique. Mais ça, c'était pour vivre. Parce qu'à côté de ça, j'ai passé ma vie à annoncer l'Évangile. Et c'est pourquoi je suis ici ce matin. Alors, je vais vous lire un texte, pour ne pas allonger, parce que je vois mon épouse qui me regarde et qui me dit « Oula, tu fais une digression ». Comme ça arrive parfois chez les enseignants, n'est-ce pas? Je vais vous lire un texte dans Hébreux 12, versets 28 à 29. Alors, il ne sera pas projeté. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que lorsque nous lisons un texte, nous le lisons dans une version. Et puis, il arrive parfois que ceux qui le lisent dans leur Bible le lisent dans une autre version. Alors, ce qui fait qu'entre ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient, quand c'est exposé, il y a, à un moment donné, ça se chevauche, mais ça se chevauche mal. Or, ce qui est important, c'est qu'on comprenne le texte. C'est pour ça que je ne veux pas qu'il soit mis ici. Donc, vous serez obligés de m'écouter. Et j'espère que vous allez être touchés, parce que c'est la parole de Dieu. Alors, nous sommes devant le mont Sinaï, dont la description va être faite, et puis vous allez comprendre après. Des Hébreux 12, versets 18 à 29. Vous ne vous êtes pas approché, en effet, d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni d'une clameur de paroles telle que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus, car ils ne supportaient pas cette injonction. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu juge de tout, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Prenez garde. Ne repoussez pas celui qui vous parle, car si ceux qui repoussèrent ces liquides sur la terre les avertissaient, n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison ne pourrons-nous y échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui des cieux nous avertit. Sa voix ébranla alors la terre, et maintenant, et il nous a fait cette promesse, une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, montrent que les éléments ébranlés seront mis à l'écart en tant que créés, afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, chapitre 5, verset 10, nous dit ceci: « Le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Chers amis, je ne sais si j'ai su apporter à ma lecture les accents et le ton que requérait la grandeur, la sainteté, la solennité d'une telle description de l'auguste présence du Dieu vivant, ainsi que l'émotion suscitée par l'évocation de son Fils Jésus, notre Rédempteur. Privilège qu'est le nôtre de nous voir offrir une telle citoyenneté. Être citoyen du royaume de Dieu, être citoyen d'un royaume inébranlable, être citoyen d'un royaume dont le roi porte le nom évocateur de Dieu vivant éternel, être citoyen d'un royaume dont les portiques nous ont été ouverts par le Fils même de Dieu, Jésus-Christ, le ressuscité, Jésus-Christ, parfaitement Dieu, Jésus-Christ, parfaitement homme, Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu, le Père et ses créatures que nous sommes, Jésus-Christ qui a signé de son sang notre acte de naturalisation céleste. Être citoyen d'un royaume dont les lois parfaites émanant d'un législateur parfait sont de ce fait immuables. Ce que Dieu dit, ce que Dieu promet, il le réalise en son temps. Rien, ni personne ici-bas, ni dans les cieux, ne peut se prévaloir d'un quelconque pouvoir susceptible d'ébranler, aussi faiblement soit-il, l'autorité souveraine de la parole éternelle de Dieu Tout-Puissant. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ainsi en est-il des promesses qu'il a faites au peuple de ses rachetés. Rien de ce qui leur advint n'échappe à son contrôle. Chaque cheveu de leur tête est compté, chaque jour de leur vie est entre ses mains. Notre Seigneur Jésus-Christ, avant de quitter cette terre pour regagner la maison du Père, ne nous a-t-il pas laissé ces paroles ô combien précieuses dans les temps difficiles aussi bien qu'au beau jour. Matthieu 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelles sont belles ces paroles. Recevant un royaume inébranlable, rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété. Mais comment recevoir ce royaume inébranlable, sinon dans notre cœur, par la foi, sinon dans notre esprit, en le nourrissant de la pensée de Dieu, exprimée de diverses manières dans sa parole écrite, sinon en calquant notre vie sur celle de son représentant, le plus illustre que la terre eut le privilège d'accueillir avant que de l'expulser comme un criminel indésirable, Jésus-Christ, notre Sauveur, Jésus-Christ, notre ami. Jésus-Christ, notre frère, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ que la mort n'a pu retenir, Jésus-Christ le ressuscité, Jésus-Christ dont nous attendons avec ferveur le prochain retour. D'ailleurs, les derniers mots de l'Apocalypse, c'est « Maranatha ». Seigneur, viens bientôt. Dès lors, il ne nous est pas malaisé de rendre un culte à notre Dieu avec fidélité et avec piété. Ne s'agit-il pas là d'un réflexe naturel de reconnaissance de la part de ceux qui ont été affranchis des liens de servitude qui les retenaient prisonniers du royaume des ténèbres, du royaume du mal et qui étaient voués à la mort? Dès lors, il nous est aussi aisé de comprendre qu'un tel culte ne saurait se restreindre à nos seuls rassemblements dominicaux, mais qu'il faut entendre par là un culte de tous les instants, de toutes les minutes, de toutes les heures, un culte de toute une vie, et ceci jusque dans l'éternité. Quelle grâce, frères et sœurs, que celle que Dieu nous offre ici, à Nîmes et ailleurs, de pouvoir partager ensemble, dans la communion des saints, de telles richesses. Quel encouragement à persévérer ensemble dans le service du Seigneur, nous fortifiant les uns les autres, malgré la faiblesse de nos moyens. Les regards tournés vers notre Dieu qui veut nous affermir, nous perfectionner, nous fortifier et nous rendre inébranlables selon la parole de Pierre. Inébranlables. C'est ce simple mot qui m'a interpellé, revenant à ma pensée comme un leitmotiv, inébranlable, en contrepoint de son antonyme, ébranlable, qui, lui, me renvoyait douloureusement à la fragilité des êtres et des choses qui peuplent notre planète. Et de fait, nombreux furent les images qui défilèrent devant mes yeux, corroborant cette triste réalité dans des domaines divers et variés. Les récents et les plus anciens cataclysmes qui bouleversent notre terre, vous vous souvenez du tsunami, les sécheresses, les séismes, les incendies, ceux qui sont prédits par les climatologues concernant le réchauffement de la planète. Ça fait froid au dos. L'appauvrissement des ressources énergétiques qui laisse peu de marge de manœuvre à nos gouvernants. Les bouleversements géopolitiques et les désordres qui en découlent. La guerre en Ukraine, par exemple, il n'y a pas que celle-là, sachons-le. La naissance et le développement d'un quart-monde, le terrorisme religieux, les guerres ethniques, les pandémies, comme le sida, l'augmentation de la pollution atmosphérique, autant de signes qui démontrent que notre monde est ébranlé et que la mondialisation accélère ses processus. Et que dire, mes amis, de l'effondrement moral de nos sociétés dites civilisées, dites avancées, qui en fermant la porte à Dieu ont ouvert la porte au diable, qui a su saisir les avantages d'Internet et de la télévision pour asservir davantage les âmes en propageant ces idées libertaires et corruptrices qui ne sont pas sans incidence sur les chrétiens que nous sommes. Bref, autant de constats souvent tragiques qui ne sont pas propices à la sérénité, et encore moins un optimisme béat. Plus près de nous, la violence, l'insoumission, l'irrespect, l'incivisme, la rébellion sont les symptômes d'une société ébranlée jusqu'en ses fondements. Et les sociologues, psychologues ou politologues se perdent en conjectures pour maintenir à flot un navire qui ne fait que s'enfoncer. Avouez qu'il y a de quoi être quelque peu ébranlé soi-même. Pendant 40 ans, j'ai côtoyé les élèves et j'ai souffert de voir se détériorer des comportements induits par la disparition des repères éducatifs les plus élémentaires, sans parler des effets dévastateurs de l'insécurité affective générée par la désunion, voire la dislocation de la famille. Je fus donc un professeur chrétien souvent ébranlé par ce qu'il voyait, ébranlé par ce qu'il vivait. Voilà 51 ans que je sers le Seigneur autant que je peux, et je constate là aussi combien il est difficile de promouvoir les valeurs évangéliques lorsqu'elles vont à contre-courant de la pensée du monde. Les notions de devoir, sans parler de sacrifice, de respect, de l'autorité, sans parler de celui des cheveux blancs, de fidélité dans les engagements, sans parler de serment, de pureté des mœurs, sans parler de sainteté, sont autant de vertus battues en brèche par les changements de rationalité des générations montantes. Le wokisme, vous avez entendu parler, qui est une déstructuration de tout ce qui a forgé notre pays et les autres à côté. Une déstructuration complète. La théorie du genre, mais je m'arrache les cheveux quand j'entends ça, qui rentre même jusque dans les écoles, à travers des brochures, des films. La théorie du genre, vous vous rendez compte ? Ce que la nature nous a donné est mis de côté. Je suis un garçon, non, tu le sauras quand tu auras 12 ou 13 ans, si tu es un garçon ou une fille. Mais on est chez les fous. On se demande comment ça se fait. Et on se dit bien là que l'adversaire a encore des moyens d'agir. Mon épouse me disait qu'il y avait en Chine, parce qu'elle l'avait lu, ils avaient commencé à fabriquer des humanoïdes et qu'ils essayaient de leur donner des sentiments. L'homme se prend pour un créateur. Il a rejeté le créateur. Il se prend pour un créateur. J'ai la conviction que dans un monde, dans un pays complètement déchristianisé, comme le nôtre, où même le nom de Jésus n'est pratiquement pas connu, le meilleur moyen de commencer à sensibiliser mon voisin, mon collègue de travail, etc., à la chose de Dieu, c'est d'abord le Créateur. Souvenez-vous que le péché est entré le jour où on a rejeté le Créateur. Mais retrouver le Créateur, c'est déjà une porte ouverte, et le Saint-Esprit va permettre que la personne de Jésus puisse émerger de ce dialogue. Mais déjà, reconnaître qu'il y a un créateur. Et la nature est si belle, et l'organisme humain est si compliqué, si beau. Mais prenez simplement le cerveau. C'est une usine, et il faut une intelligence. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de savants qui se disent, il y a une pensée, il y a une intention derrière ce que nous voyons. C'est tellement bien organisé. Sachez qu'un écart de la trajectoire du soleil de 1 degré suffirait soit pour nous griller, soit pour nous congeler. Et ça marche. Mais ça ne peut marcher que parce qu'il y a une intelligence supérieure. Ce qui est triste, c'est que certains se rendent compte qu'il y a quelque chose autour d'eux. Et qu'est-ce qu'ils font ? Plutôt que d'adorer le Créateur, ils se mettent à adorer la créature, ne serait-ce que les arbres. Alors on embrasse les arbres, parce qu'ils sont animés par la pensée de Dieu. Grossière erreur. parce que c'est pas parce qu'un arbre pousse qu'il est beau, qu'il fait des feuilles, qu'il fait des fruits, que pour autant il doit être un dieu. C'est pas lui qui donne la vie, c'est le Créateur. Alors voilà, c'est une petite, ma petite touche apportée, qui n'est pas là-dedans d'ailleurs, je vous l'ai dit. Alors je reprends mon texte. L'apôtre, c'est pour ça, ma femme, encore une digression. L'apôtre Paul, s'adressant à Timothée dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, verset 1, lui bronçait un tableau des temps à venir dont nous mesurons aujourd'hui la pertinence. Voilà ce qu'il dit Paul. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront, alors écoutez bien cette liste, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, tiens, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, quand on pense qu'il y a des gamins de 16 ans ou de 14 ans qui tuent leurs camarades de classe en sortant du collège avec un couteau. Ce sont des signes qui doivent nous alarmer, ça. Jamais on n'aurait imaginé ça du temps de notre jeunesse. Et pourtant, nous ne sommes pas trop vieux. 77 ans bientôt. Mais c'était comme si c'était hier, n'est-ce pas ? Intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, ah là oui, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. S'il est vrai qu'à toute époque, nombre de ces travers ont pu être dénombrés, je ne crois pas être dans l'erreur en disant que la nôtre, que les conjugue tous, dans une proportion jamais atteinte. À cet égard, la mondialisation des moyens modernes de communication n'a fait qu'accélérer ce triste phénomène. Il n'est pas jusqu'aux sociologues qui ne décrivent nos sociétés comme individualistes, hédonistes, c'est-à-dire l'éthique du plaisir, comme des sociétés tournées vers le profit et la consommation, et jusqu'aux psychologues qui dénoncent la perte de repères comportementaux et moraux. Mes chers amis, un tel panorama aurait de quoi nous ébranler, nous interroger sur notre avenir, nous intimider, nous paralyser même, nous saisir de crainte, si peu que nous ayons le courage ou la curiosité ou l'honnêteté ou la lucidité d'y accorder quelque attention. Et c'est ce que font certains de nos contemporains qui, faute de ressources ou de réponses adaptées, se laissent porter par le flot de la vie et de ses aléas. Et c'est ce que nous serions tentés de faire. Et c'est ce que nous faisons parfois temporairement. Si ces quatre mots lumineux, recevant un royaume inébranlable, ne venaient en un instant fixer nos regards sur du solide, sur de l'éternel, les détournant des objets éphémères qui peuplent la mouvance de ce monde pour les orienter émerveillés vers de nouvelles réalités qui nous sont révélées par l'Esprit Saint. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, ce « c'est pourquoi » fait référence à la majestueuse et vivifiante description de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Oh, je languis de pouvoir chanter avec eux. Ça sera beau. Le chant de l'agneau, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Nous sommes ici et maintenant, hic et nunc, projetés en un instant dans la présence de Dieu, encore à venir pour nous ici-bas, mais déjà présent en nous par l'Esprit lorsqu'il est saisi par la foi. Dès lors, nous ne sommes plus 40, 50, 100 ici à chanter les louanges de notre Dieu, mais nous sommes à l'unisson des myriades d'anges dans les cieux et de tous ceux qui, dans la maison du Père, nous ayant devancés, attendent le jour glorieux de la résurrection. Nous avons par l'Esprit un accès direct à ce royaume inébranlable et nous en sommes les ambassadeurs, ambassadeurs d'un royaume inébranlable dans un monde ébranlé. Rappelez-vous la parole de Jésus, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il était lui l'incarnation de ce royaume. Devant cette vision céleste, l'inquiétude ou le doute ou la lassitude qui tentait de s'emparer de nous s'enfuit, chassée par le souffle de l'Esprit Saint qui nous donne de contempler, émerveillés, ravis, revigorés, les beautés éternelles, inébranlables, incorruptibles du royaume de Dieu, de notre royaume, beauté déjà goûtée avec délice par les prémices des rachetés. Et au centre de cet admirable tableau, plus rayonnant que jamais, plus aimant que jamais, plus attirant que jamais, plus encourageant que jamais, se dresse dans tout l'éclat de sa majesté retrouvée, Jésus-Christ, notre rocher salutaire, Jésus-Christ, notre bien-aimé sauveur, Jésus-Christ, l'agneau qui ôte le péché du monde, Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers, Jésus-Christ, le ressuscité, Jésus-Christ, le vivant. Alors je veux conclure. Pas trop long, pas trop court. Que le Seigneur, par cette vision de sa toute-puissance et de sa fidélité dans ses promesses, autrement dit de son amour, dynamise notre foi, renouvelle nos sentiments et notre intelligence. Vous savez, quand je prépare un message, je dis toujours au Seigneur, donne-moi d'apporter quelque chose de ta parole qui fasse que ceux qui sont là soient différents en sortant qu'en rentrant, qu'ils aient reçu quelque chose. Sinon, ça ne sert à rien de prêcher. L'Évangile doit changer. C'est une dynamique, l'Évangile. Qu'il fasse de chacun de nous des dignes ambassadeur de son royaume inébranlable dans ce monde ébranlé. L'évangile du Christ ressuscité reste et demeure le seul et unique message offert au monde qui lui ouvre de telles perspectives d'avenir. C'est pour nous un immense honneur que Dieu nous fait d'en être ses terrestres héros. Avons-nous conscience de cet immense privilège, immérité. Nous avons une bonne nouvelle à apporter au monde. Si demain, j'ai un de mes voisins, quand je serai là-haut, qui me dit « Mais jamais tu m'as parlé de Dieu. » Je ne veux pas de ça. Et Dieu non plus. Il nous a mis comme témoins, pas ici, mais tous les jours. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, cette porte d'entrée pour amener vers Dieu, la création, c'est quelque chose de formidable. et ça peut amener. Parce que si je parle directement de Jésus, ils ne savent pas qui est Jésus. Il faut préparer le terrain. Préparer le terrain pour les amener à rencontrer Dieu. C'est donc pour nous un immense honneur. Sachons enfin nous reposer sur cette merveilleuse promesse que j'ai lue tout à l'heure, je crois, dans 1 Pierre 5, verset 10. Et ce sera mon dernier mot. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Chaque mot a une densité énorme. Dieu, grâce, gloire. D'ailleurs, le mot gloire en hébreu, c'est kabod. Kabod, c'est le poids. Aujourd'hui encore, on dit, oh, cet homme, il a du poids. Quelquefois parce qu'il a de l'embonpoint, mais quelquefois parce qu'il a un gros portefeuille. Mais la gloire de Dieu, c'est tout autre chose. C'est le poids de sa personne de créateur. Et quand le poids de l'amour de Dieu vient sur une âme et l'englobe, alors cette âme prend toute sa véritable dimension parce qu'elle s'ouvre par le Saint-Esprit à la découverte d'une nouvelle rationalité. C'est celle du royaume de Dieu, du monde spirituel de Dieu. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Que Dieu vous bénisse.